Bonjour et bienvenue dans ce 64e épisode de Ces garçons-là. Alors cette semaine, je vous propose de rencontrer Francisco. Il a 21 ans et il est, vous allez l'entendre, bourré de talent. Vous l'avez d'ailleurs peut-être vu dans l'émission Objectif Top Chef sur M6, où il a réussi à épater le chef Philippe Etchebest. Depuis, il est passé par le championnat de France des desserts en 2021 en remportant la finale Grand Ouest. Et à seulement 21 ans, sa vie, il la passe, vous vous en doutez, en cuisine. Mais Francisco, ce n'est pas que la cuisine, c'est aussi l'histoire d'un déracinement, celle d'un gamin de 7 ans qui va quitter une partie de sa famille et de ses amis au Portugal pour arriver en France, un pays dont il ne connaît même pas la langue. Un défi qu'il a dû surmonter tout jeune, tout en s'intégrant dans un pays, dans une région, dans une école où il va être le seul étranger. Je vous souhaite une belle rencontre cette semaine avec Francisco et si vous êtes gourmand, vous devriez vous régaler. Bonjour Francisco.
Bonjour.
Tu as 21 ans. T'es né où Francisco ?
Au Portugal.
Tu y es resté longtemps ?
Jusqu'à mes 7 ans à peu près.
Qu'est-ce que tu te souviens du Portugal et du petit Francisco à l'époque ?
Le soleil, la liberté. La maison où j'étais, c'était un petit lotissement. Puis on était plein de gamins et on jouait tous ensemble.
Et vous jouiez à quoi ? Vous étiez
au
nombreux ?
Foot. Au foot.
Au foot. Quelle équipe tu soutiens ?
Portugal.
Ah, bah, évidemment, forcément. Ça pose pas un problème, ça d'ailleurs, quand il y a un France-Portugal ?
Non, parce que je suis content pour celui qui gagne, on va dire.
Ouais, t'es un peu les deux finalement. Oui. Une enfance au Portugal, comment tu la qualifierais comment, toi, l'enfance du petit Francisco, comme ça, au Portugal ? D'ailleurs, dans quelle ville ?
À Aléria.
C'est où ?
On va dire pas très loin de Lisbonne, Nazaré, tout ça.
Grande famille, c'est quoi la relation que t'as avec ta famille qui est là-bas ?
Très proche avec mes grands-parents,
ouais.
C'est comme mes parents. Vraiment, j'ai grandi avec eux, parce que mes parents travaillaient beaucoup, ils avaient leur boîte. Donc j'ai grandi avec eux et ils allaient me chercher à l'école, je passais mes journées chez eux, construire des cabanes.
Qu'est-ce qu'ils t'ont donné tes grands-parents comme éducation ?
Ils n'étaient pas stricts, parce que c'est les grands-parents et c'est les gentils, mais juste, ils étaient très justes et polis.
Cette enfance, j'ai l'impression qu'elle t'a tout de même marqué. Est-ce que c'est le genre d'enfance que tu voudrais pour tes enfants si un
Exactement.
Jour...
C'est exactement le genre d'enfance que je voudrais pour mes enfants.
Et tu penses qu'en France, tu pourrais leur offrir la même chose ?
Oui, c'est possible. Après, c'est le paysage qui est différent. Les personnes qui peut-être ne seront plus là, malheureusement, mais c'est ce que je voudrais.
Ils auront d'autres grands-parents.
Voilà, c'est ça.
Et à 7 ans, tu vas quitter le Portugal.
Oui.
Qu'est-ce qui va se passer ? Pourquoi tu quittes le Portugal ?
Mes parents, ils avaient une entreprise.
Ouais.
Donc, c'était aux alentours de 2008-2009.
D'accord.
Donc, grande crise, hein, les malheurs de la vie, ça peut arriver à tout le monde. Donc, mon père, qui lui était né en France, mais qui est de parents portugais, mes parents, ils étaient venus travailler quelques années
Donc,
en France.
Donc, binationaux ?
Non, portugais.
Non, portugais, ouais. D'accord.
Mon grand-père est venu travailler en France. Il a eu ses enfants et d'autres qu'il a eu au Portugal. Puis, il est rentré après au pays.
D'accord.
Donc, mon père parlait français.
Évidemment.
Donc, il est venu. Nous, on l'a suivi un an plus tard.
Tu parlais un peu le français ?
Pas du tout.
Pas du tout.
Zéro.
T'as 7 ans à l'époque. Hein.
J'ai 7 ans.
T'as 7 ans, on t'annonce que tu vas quitter tes amis, ta famille, la ville, l'Eria, là où tu es né, là où tu grandis, là où tu joues. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ?
Beaucoup de tristesse.
C'est vrai ?
Beaucoup de pleurs, forcément.
Ouais.
J'étais habitué.
Tu t'en souviens de ça encore ?
Ouais. Ouais. C'était un moment très dur pour moi et pour mes frères. Et pour mes parents aussi, parce que c'est eux qui ont fait le choix, mais ils ne le voulaient pas forcément. C'est comme ça. Il faut...
Un choix, c'est plus une contrainte, là.
Voilà, c'est ça. Ils ont une famille et des enfants à élever, donc fallait faire le choix, quoi.
Il y a des images qui te restent de ce moment-là, du départ ?
Bah oui, forcément. Le départ où tu rentres dans la voiture, tu dis au revoir à tes grands-parents, à la famille. Ouais. Tu les vois qui pleurent, tu pleures aussi.
Tu savais que tu reviendrais ?
J'espérais revenir. Mais les choses étaient compliquées, donc on a fait ce qu'on pouvait.
Et en même temps, la France, ça représentait quoi à l'époque ? Parce que tu n'y avais peut-être jamais mis les pieds encore.
Moi, je n'avais pas cette maturité de voir ce que ça représentait. Je voyais plutôt ce que je perdais.
Ouais.
Je ne voyais pas ce que j'allais gagner. Mais plus pour mes parents et pour la famille en général, c'était une deuxième chance.
Comment ça se passe, ton arrivée en France ? Est-ce que tu... Dans les premiers jours, tu vois ce pays avec quel regard d'ailleurs tu portes sur la France quand tu arrives en France, toi qui n'as jamais connu la France, qui n'a connu que Leiria, cette ville près de Nazaré au Portugal.
Je voyais ça comme une prison un peu.
Ah ouais ?
Ce qui m'empêchait d'être là où j'avais vraiment envie d'être. Mon père connaissait quelqu'un dans la région, donc ouais. un ami à lui avec qui il avait travaillé.
Ouais.
Donc lui, il partait, donc nous, on a pris la maison où il était.
D'accord.
Et on a rencontré des gens très sympas qui nous ont laissé y être parce que c'était un gîte.
Ouais.
On est resté pendant un an.
D'accord.
Donc après, forcément, on a pris une maison en location. Et puis, une école à Cérelles, dans le nord de Tours.
Ouais.
Un petit village. Les gens étaient très sympas.
Et la barrière de la langue, comment tu la gères? Parce que tu as 7 ans, j'imagine que c'est pas facile. Alors, globalement, à 7 ans, on apprend vite. Hein, donc, je pense que le français va arriver assez vite. Mais ta maman parle pas le français?
Ma mère parle français de ce qu'elle a appris à l'école.
Ouais.
Donc, comme nous, ici, on pourrait parler anglais.
Ouais.
La plupart des adolescents, tu leur demandes de parler anglais, c'est pas terrible.
Toi, tu vas réussir à surmonter cette barrière-là, parce que j'imagine que... Comment t'étais vu, d'ailleurs? Parce que t'arrives dans un petit village du nord du département de l'Indre-et-Loire. Quel regard les autres enfants portent sur toi? On le sait, les enfants sont cruels. Hein.
Alors, moi, j'ai eu beaucoup de chance.
Ah,
donc,
ouais.
La classe, les enfants, l'école en général étaient très bienveillants. Donc, on leur annonce qu'un élève étranger arrive dans la classe. J'étais heureux.
Ouais.
Mes souvenirs, très très bien, ils m'ont beaucoup aidé.
Ah.
C'est des enfants, mais ils avaient cette envie de m'apprendre. Et ça, c'est pas tout le monde qui l'a eu, cette chance. Et j'ai vraiment eu beaucoup de chance de tomber là-dedans, quoi.
Donc, il y a eu une bienveillance très vite autour de toi.
C'est ça.
Et de la part des enseignants ou enseignantes aussi?
Les enseignants aussi, mais... Aujourd'hui, je le comprends mieux avec la maturité. Ils avaient un petit jeune qui ne parle pas français à gérer.
Ouais.
Ils ne pouvaient pas avoir toute l'attention, même s'il en avait besoin, parce qu'ils avaient toute une classe en fait, à gérer.
Parce que c'est extrêmement difficile de suivre un cours, parce que tu es propulsé dans une classe comme ça,
c'est ça,
dont tu ne comprends évidemment pas la langue.
Je ne comprends rien du tout, mais ça rentre, parce que par exemple, je me souviens à la cantine,
ouais,
j'étais en train de manger avec les filles,
ouais,
et puis elles montrent une fourchette, et puis elles répètent au repas, fourchette, 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 fourchette. C'était ça avec tout.
Donc, c'est comme ça que c'est rentré.
C'est ça.
Très rapidement, tu vas poursuivre une scolarité normale, du coup, pas de retard ou de décalage lié...
Non, pas forcément, je n'ai pas redoublé. Je suis resté au même niveau.
Alors, on a beaucoup parlé de toi, mais on n'a pas parlé de tes deux frères. Ils vous suivent également, ils viennent en France?
Ils viennent aussi, donc on est tous venus, les cinq.
Ils ne savaient pas non plus parler français?
Non, pas du tout.
Ta scolarité se passe, on le comprend, visiblement plutôt pas trop mal d'ailleurs. Hein.
Non, très très bien même, je dirais. J'ai été très bien intégré, très vite aussi.
Les parents aussi arrivent à bien s'intégrer facilement?
Mon père, oui, parce qu'il travaillait. Mmh. Il n'a pas pris un petit poste directement, donc il avait directement des responsabilités, il connaissait la langue et il connaissait aussi son métier. Donc il a forcément tout de suite été... Je ne sais pas si c'est bien intégré, mais doué dans ce qu'il faisait.
Ouais.
Ma mère n'a pas travaillé la première et la deuxième année, parce que forcément, nous, on avait besoin de tout.
Ben oui.
Et puis, elle ne pouvait pas trop parler si elle ne parlait pas trop français, quoi, elle ne pouvait pas travailler.
Ouais.
Donc, elle a commencé des petits boulots.
Ouais.
Elle avait fait des études de psychologue au Portugal.
D'accord.
Donc, après, elle a dû reprendre les études ici pour faire une équivalence,
d'accord,
pour que le diplôme soit équivalent.
Ce qu'elle a réussi.
Ce qu'elle a réussi. Donc aujourd'hui, elle est psychologue depuis déjà pas mal d'années.
Et elle a réussi à s'installer sans aucun problème.
Voilà, très bien.
Quel est le plus ancien souvenir que tu aies de toi, mais lié à la cuisine? Lié à l'idée de préparer quelque chose, à l'idée de cuisiner. Cuisiner ou manger peut-être aussi d'ailleurs.
Je dirais les repas de famille chez mes grands-parents.
C'est ça.
Tout le monde mettait les mains à la pâte.
Ouais. Même vous?
Même nous. C'est-à-dire ouais, que mon grand-père s'occupait des grillades.
Ouais.
Ma grand-mère faisait le pain, par exemple. Ouais. Ou les gâteaux. Enfin, pain, gâteau et puis toutes les garnitures.
Mm-hmm.
Et puis, avec mon frère, on traînait dans la cuisine. Ouais. Puis, dès qu'elle avait fini de faire son gâteau et de le mettre dans le moule, on prenait le récipient puis on mangeait toute la pâte crue, quoi.
Et à quel moment tu t'es dit, tiens, moi aussi, j'ai envie de m'y mettre et le déclic qui va se faire quand?
J'étais en troisième, hein, donc au collège.
D'accord.
Neuilly-Pompierre. Et j'étais
donc là,
très...
c'est Neuilly-Pompierre, c'est au nord de l'Indre-et-Loire, hein, c'est
ouais,
ça.
C'est ça. Donc j'étais très proche d'un surveillant.
Ouais.
Le surveillant au collège, c'est un peu nos copains à tous.
Ouais.
Donc j'étais très proche de lui et il avait sa cousine qui sortait avec un cuisinier.
D'accord.
Qui était au Troche.
Ok.
Donc,
pour expliquer, les Hautes Roches, c'est un restaurant ?
C'est un restaurant à Rochecorbon, donc, qui a eu une étoile Michelin pendant des années.
D'accord.
Et donc, bah, il a réussi à me faire rentrer en stage là-bas.
D'accord.
Stage de troisième.
Mais il n'y avait pas encore forcément l'intérêt.
Non, il n'y avait pas l'intérêt, mais la curiosité. Donc, j'y suis allé, j'ai fait ma petite semaine. Et le chef, Didier Hédon, m'a envoyé vers un autre restaurant.
Ouais.
Donc, l'Arche de Mêlée, à part ses mêlées.
D'accord.
Donc, après, bah, je suis rentré en bac pro cuisine. J'ai fait mon premier stage à l'Arche de Mêlée.
Donc, après la troisième, on rentre en bac pro, c'est ça ?
C'est ça.
D'accord. Donc, la seconde devient en fait un bac pro.
C'est ça.
D'accord.
Donc, voilà, bah, l'Arche de Mêlée. Et puis, c'est ce stage-là de 6 semaines qui m'a donné envie de persévérer un petit peu.
C'est pas, je pense qu'on te le dit et tu t'en rends compte, très clairement, le métier de cuisinier, c'est un métier où on se donne à 1000%. Ça te fait pas peur ?
À l'époque, non, ça me faisait pas peur parce que je me disais, si tellement de monde le fait, pourquoi moi je peux pas le faire ? Et c'est vraiment ce... J'avais... quel âge ? 15 ans, 16 ans.
Ouais.
Donc t'arrives dans un restaurant, tu vois tout ce que tu peux faire. Que tu n'as pas connu, c'est-à-dire que tu vois tous les plats. Moi qui à la maison mangeais quasiment que de la cuisine portugaise, je voyais tout ce qu'on pouvait faire avec des produits français et qui étaient complètement différents de ce que moi j'avais connu. Et ça m'a donné cette curiosité d'aller voir ce qu'on peut faire en fait.
C'est quelque chose que tu regrettes maintenant ? Tu trouves que c'est peut-être trop ? Parce que ça demande trop la cuisine ?
Je sais pas si je referais le même choix.
Ah ouais ?
Ouais, c'est un métier de passion.
Bien sûr.
Évidemment. Mais c'est un métier très prenant.
Ouais.
Et je le répète et encore une fois, en troisième, je pense qu'on n'a pas la maturité pour faire notre choix de vie. Certes, on peut faire des reconversions plus tard, ouais. Mais c'est compliqué aussi. Enfin, quand on a démarré la vie professionnelle, c'est compliqué d'arrêter, quoi.
Qu'est-ce qui te plaît dans la cuisine, Francisco ?
Liberté, créativité.
Ouais.
On peut créer à l'infini, je pense. Il y a tellement de richesses de produits.
Quel type de produit tu aimes travailler ?
Tout.
Il se passe quelque chose quand tu arrives dans une cuisine ? Tu travailles dans un très prestigieux château. Ça fait quoi quand tu rentres dans les cuisines de ce très bel établissement ? Tu ressens quelque chose ?
Quand on arrive tous les matins,
ouais.
Que le soleil tape sur la façade du château, ouais. C'est une très très belle image. Donc, tous les matins, je pourrais le regarder. Mais bah, forcément, après, on s'y fait. Mais bah, on a la chance quand même d'être dans un établissement... qui est très très bien.
Donc, ouais.
On est content quand même de venir travailler.
Qu'est-ce qui te motive, toi ? Toi, là, quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce qui te motive ?
Peut-être essayer d'être meilleur que la veille.
Ouais.
S'améliorer toujours. Parce qu'on ne le voit pas forcément. D'aujourd'hui à demain, je ne vois pas si je me suis amélioré. Mais quand je vois comment je suis arrivé il y a 2 ans, j'ai vu le chemin que j'ai parcouru. Même si sur le moment, on ne le voit pas. 2 ans plus tard, on voit qu'il y a une évolution.
Qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui évolue ? Moi, j'entends des mots comme technique, technicité, j'entends tout ça, mais ça se traduit comment au quotidien ?
Le raisonnement, je pense, surtout, dans l'élaboration d'une recette, d'un plat. Matcher tel ingrédient avec tel ingrédient, contrer un ingrédient avec un autre. Oui, les techniques. Savoir que, par exemple, quand on fait une sauce ou quand on fait des taillages, on va privilégier déjà bah, certains produits et puis certaines techniques pour apporter un goût différent. C'est une maturité professionnelle.
Tout ça, ça s'apprend.
Ça s'apprend. Ça, c'est pas dans les bouquins. Enfin, si, ça peut être dans les bouquins, mais il faut le vivre.
Tu connais toutes ces recettes, tout ça ? Tu connais tout ça par cœur ?
C'est impossible de te connaître par cœur. C'est impossible.
Est-ce que tu travailles au quotidien, tu le connais par cœur ?
Ah forcément, on le fait, on le refait, et c'est des gestes qu'on fait pendant des années. Donc au bout d'un moment, on finit par connaître par cœur.
Qu'est-ce que tu lui dirais à ce jeune qui arrive et qui voit ça avec son regard et ses yeux certainement très émerveillés, qui voit ta technicité dans la préparation des plats, des sauces, etc. Et qui se dit, j'ai envie de faire pareil. Comment je peux faire ? Francisco, comment je peux faire ?
Je pense que la plus grande qualité d'un cuisinier, c'est la curiosité.
Ouais.
Il faut s'intéresser. Au-delà de voir et de reproduire, il faut comprendre pourquoi on le refait, pourquoi on fait ce geste-là et pas un autre. Et il faut vraiment aller chercher le pourquoi du comment, et pas juste reproduire bêtement.
Et c'est ça qui se transmet en cuisine, justement. C'est le pourquoi de ces gestes, le pourquoi de cette technique-là.
C'est ça. Parce que dans beaucoup d'endroits, malheureusement, c'est encore tu fais parce que c'est comme ça. Alors, il faut réussir à expliquer aux jeunes. Nous, on le voit quand on a beaucoup de stagiaires. Pourquoi est-ce que tu fais comme ça et pas d'une autre façon? Parce que ça marche mieux, parce que c'est pour le produit, ça le maintient mieux, pour plein de raisons.
Tu parles de ces stagiaires, tu dis on a beaucoup de jeunes, beaucoup de stagiaires. C'est encore un métier qui fait rêver la cuisine, Francisco, ou pas?
De moins en moins.
Ah ouais?
Parce qu'on arrive de moins en moins à recruter. C'est, on ne va pas se mentir, même les écoles, elles ont de moins en moins d'élèves. C'est un métier qui est compliqué parce qu'on voit.
Est-ce
aussi...
que c'est dû au Covid? Est-ce oui. que le Covid y a fait un petit quelque chose à ça?
Il y a eu énormément de départs de cuisiniers après le Covid.
Ouais. Une envie d'autre chose? Un ras-le-bol de la profession?
Un ras-le-bol, oui, c'est ouais. ça, parce que quand on est enfermé 4 mois à la maison et qu'on goûte à ce que c'est la vie de famille,
ouais.
alors pendant, il y en a pour qui ça a été atroce,
ouais.
mais il y en a qui ont vu ce qu'ils rataient en fait.
Ouais.
Et là, ils se sont posé les bonnes questions.
Comment tu l'as vécu, toi, ce confinement? T'es arrivé à cuisiner un peu tous les jours quand même pour toi ou pas?
Bah, j'essayais de cuisiner un petit peu. Après, c'était un peu compliqué parce que les gens, ils sautaient sur les produits en magasin.
Ouais.
Et bah, moi, j'ai bien vécu ça parce que je travaillais pas encore. C'était juste avant que je démarre le travail.
Ouais.
Donc, j'étais à l'école. Et non, j'ai plutôt bien vécu, ouais.
Un autre volet important de ta vie, et peut-être que certains t'ont vu à ce moment-là, ça a été ta participation à Objectif Top Chef sur M6. C'est quoi le déclic pour participer à ce genre d'émission de télé?
Alors,
parce que tu es très jeune quand tu le fais.
Bah oui, j'avais à peine 18 ans,
ouais.
17-18. Bah, c'est que j'ai fait d'autres concours de cuisine quand j'étais au lycée, j'en ai fait 4, je crois, avant ouais. celui-là. Et en fait... cette émission, ils sont en partenariat avec le MAF, donc Meilleur Apprenti de France.
Mmh.
Et donc, bah, partenariat, donc ils ont notre numéro de téléphone, tout ça. Donc en fait, moi, ils m'ont appelé. C'est pas moi qui me suis inscrit.
D'accord.
Ils m'ont appelé. Au début, j'ai cru que c'était une blague d'un copain.
Et non.
Et bah, quand j'ai fait le visio avec la dame, hein, pour l'entretien.
La casteuse.
Voilà, c'est ça. Bah, j'ai compris que c'était pas une blague.
Non, non, c'est clair.
Parce que, donc voilà, bah, après, je me suis dit, pourquoi pas.
Ouais.
J'ai rien à perdre. Et donc, bah, j'y suis allé.
Comment ça se passe, d'ailleurs, ce genre de concours? On imagine que c'est très préparé, très travaillé. Il y a des codes aussi. On vous oblige à certaines choses?
Alors, moi, j'ai été un peu déçu du monde de la télé en ouais. tant que candidat.
Ouais. Qu'est-ce qui t'a déçu?
Après, on se doute que c'est pas fait comme on le voit, forcément.
Non, bien sûr.
Mais après...
Qu'est-ce qui t'a déçu?
Ah, c'est quand on fait les petits face cam après l'épreuve.
Ouais.
Et qu'on dit quelque chose et qu'on nous dit, ouais, non, dis plutôt ça. Enfin, voilà,
c'est... D'accord, oui, c'est un peu orienté, quoi.
Oui, un peu. Après, je comprends aussi. Parce
oui,
que...
ça fait partie du script de l'émission, quoi.
C'est ça, c'est ça. On ne le savait pas avant, en fait. Si on me l'avait dit avant, pourquoi pas. Après, on le fait, hein, c'est passé, c'est... Bon, je m'en fiche maintenant.
Ça a été une bonne expérience, globalement?
Oui, parce que. Ça apporte forcément de la maturité, parce qu'entre un concours de cuisine classique et un concours qui est télévisé, c'est deux choses différentes.
Comment ça se passe, la relation avec, on va le dire, hein, avec Philippe Etchebest?
Il est très sympa.
Très sympa?
Sans blague, il est très très gentil. Il ne peut pas donner de l'attention à tout le monde. On non. était 108 candidats.
Ah, c'est beaucoup, hein.
Oui, ça fait énorme. Donc 108 candidats, il envoie défiler tous les ans, 108, ouais. plus Top Chef et plus tout ce qu'il fait à côté. Mais j'étais content parce qu'il a pris le temps de discuter avec moi.
Ouais.
Il m'avait même proposé d'aller en stage chez lui. Parce que j'étais en...
Cool.
J'allais démarrer une mention dessert. Bon, je n'y suis pas allé, du coup, c'était trop loin, Bordeaux. Mais,
non, ça t'aurait tenté de travailler avec un chef comme lui, médiatique?
Ouais, ça peut. Après, je sais que j'allais travailler, par exemple, au 4e mur, mais que lui ne serait pas là.
Ouais.
Donc...
Parce qu'en fait, c'est ça, ce sont des gens qui ont des restaurants, mais qui ne sont pas souvent dans leur restaurant, pour bah, même dire jamais, en fait.
Bah non, il a un chef exécutif, donc qui est là pour faire le boulot de chef.
Ouais.
Après, lui, il avait beaucoup de choses à gérer. Il est arrivé aussi à un âge où on a, je dirais pas plus envie d'être cuisinier, mais ça devient compliqué, c'est physique comme métier. On peut être Philippe Etchebest ou un autre, l'âge, c'est comme ça, quoi.
Ils sont quelques-uns quand même à avoir atteint ce niveau de notoriété. Est-ce que toi, c'est quelque chose vers lequel tu peux être intéressé? C'est-à-dire se dire, voilà, le métier de chef est encore très médiatisé. Moi aussi, j'ai envie, pourquoi pas, de tenter ma chance là-dedans.
Bah, je pense qu'aujourd'hui, c'est un grand tremplin pour tous les cuisiniers. Et on est dans un monde où on vit beaucoup à travers ça. À travers les réseaux sociaux, à travers...
L'image.
À travers l'image, voilà, c'est ça. Donc, je pense que c'est quelque chose que tout le monde doit travailler parce que ça peut faire vivre beaucoup de gens.
Toi, c'est quelque chose vers lequel tu pourrais aller, alors?
C'est quelque chose que j'aimerais développer parce que c'est l'avenir, je pense.
Il y a autre chose que tu as aussi tenté, puisque l'on parle de concours, c'est le chemin de France des desserts.
Mmh.
Comment ça se passe?
Ça se passe en mention complémentaire,
ouais.
Dessert de restaurant, donc à Baillé, où j'ai fait mon bac aussi. C'est le bon prof qui m'a poussé à faire tous mes concours en cuisine. Il m'a dit, bon, l'année prochaine, t'es en pâtisserie, t'es pas avec moi,
ouais.
Parce qu'il est pas prof de pâtisserie, mais je veux que tu fasses ce concours. Moi, j'ai dit oui.
C'est sympa.
Il m'a beaucoup aidé, ce professeur.
Ouais. C'est important, ça, d'avoir des bons profs quand on fait un métier aussi, alors j'ai envie de dire artisanal, que celui de cuisinier.
C'est un métier de transmission.
Ouais.
Donc c'est très important, la transmission. Et c'est lui, d'ailleurs, qui m'a poussé à faire mon premier concours et qui, après, m'a donné envie d'en refaire d'autres et qui m'a suivi dans chacun d'entre eux. Donc un grand merci à lui, parce que c'est aussi grâce à ça que j'ai pu me construire. Donc après, il m'a poussé à faire ce concours-là en pâtisserie. Le prof que j'ai eu en pâtisserie, je le connaissais très bien déjà, je l'avais eu en bac. Et puis il était très copain aussi avec le prof que j'ai eu en cuisine. Donc la question s'est posée un début d'année, qui c'est qui veut faire ce concours? Dans la classe, on était 2-3 à lever la main.
D'accord.
Moi, je savais que je voulais le faire. C'était pour moi, j'aimais bien. Donc c'est ce challenge en fait d'aller chercher quelque chose. Et donc on s'est inscrits tous les trois, on s'est entraînés avec le professeur. Et puis, voilà, les résultats sont tombés, quoi.
Pourquoi la pâtisserie, d'ailleurs, et pourquoi pas autre chose? Qu'est-ce qui t'intéressait dans la pâtisserie?
Pour me compléter. Je voulais pas en faire mon métier, mais pour me compléter.
D'accord. T'avais besoin de... C'est différent, la pâtisserie et la cuisine. On dit toujours, la pâtisserie, c'est la précision, la cuisine, c'est l'instinct. C'est vrai?
Un peu, oui. Après, le pâtissier, bon pâtissier qui maîtrise, il y va à l'instinct aussi.
Ouais.
Mais moi, je l'ai fait parce que j'avais envie déjà, tout simplement. Et j'étais jeune, donc je pouvais prendre le temps de le faire. Je me sentais pas encore de rentrer dans la vie active. Et puis, c'était là, je savais que je pouvais y aller. Donc j'avais envie, il n'y avait rien qui m'empêchait de le faire.
Fais-nous rêver, c'est quoi ton dessert favori? Celui que tu préfères manger et puis peut-être aussi celui que tu préfères préparer, là.
J'aime tellement de trucs, en fait.
Ça se voit pas physiquement.
Des grands classiques. Hein,
c'est vrai?
Oui. Je suis pas trop chichi. Des grands classiques, moi, ça me va très bien.
Qu'est-ce que t'appelles des grands classiques?
Une bonne mousse au chocolat.
Ah ouais.
Elle est bien faite, pas trop sucrée. Très, très bien. Des bonnes crêpes.
Ouais.
Gâteau au chocolat, un cake, un marbré, enfin plein de classiques.
C'est extrêmement simple, en fait.
C'est extrêmement. Ben, les cuisiniers, la plupart de ceux que je connais, même le chef, hein, Hervé Gutin, on aime les choses simples.
Ouais. Et pourtant, vous travaillez dans un lieu où vous sortez des assiettes qui sont très techniques, très travaillées, très dressées aussi. Il y a tout un. On est loin de la cuisine entre guillemets des mères lyonnaises, par exemple, où il y avait une cuisine effectivement très 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 instinctive, très très généreuse, très goûteuse et qui était servie à l'assiette comme ça. Voilà, ça n'a rien à voir.
C'est ça. Bah comme tu as dit tout à l'heure, on voit beaucoup de chefs sur les réseaux. Il y a beaucoup d'extraits de Bernard Loiseau, de Paul Bocuse.
En fait, moi, c'est des idoles pour toi ou pas, ça, ces gens-là? Loiseau, Bocuse, j'en passais des meilleurs.
Des idoles, je pense qu'il y a un grand respect professionnel qui se fait pour eux.
Ouais.
Après, idoles, c'est pas ma génération. Donc, je les ai connus déjà très âgés.
Ouais.
Mais par contre, ce qu'on peut voir et ce qu'on sait d'eux, moi, j'ai fait un mixte, c'est-à-dire que... Par exemple, Bernard Loiseau qui disait « Je veux mes 3 étoiles Michelin », je les aurais, il les a eues. Je dis pas que je veux 3 étoiles Michelin, mais ça montre en fait le « je veux, je travaille, je l'ai ». Et Paul Bocuse disait « il n'y a qu'une cuisine, c'est la bonne ». Donc il faut un bon produit, un bon assaisonnement, une bonne cuisson. Voilà, c'est tout. C'est simple. Des bons produits, des produits de base.
Pour toi, c'est la base des choses, c'est des bons aliments, des bons ingrédients, une bonne base, une bonne technique et une bonne cuisine finalement. Au final, va sortir un bon plat, quel que soit le type de plat.
C'est ça, parce que pour moi, en tout cas, moi, j'aime pas trop partir dans des délires un peu spéciaux. Pour moi, la cuisine française, elle est très bien. Après, chacun l'adapte, voilà, chacun a son instinct, c'est différent à tout le monde. Mais moi, c'est... T'as un classique, tu peux le revisiter si tu veux, aucun problème. Par contre, il faut le maîtriser. Par exemple, quand tu sors un classique en restaurant, il faut que tu le maîtrises.
Qu'est-ce que t'appelles un classique ? C'est quoi un plat classique ? Les œufs mayonnaise, par exemple, c'est un classique, ça. Ça se met pas au restaurant, ça.
Non, pas forcément.
À part
les
bouillons, peut-être, ou des restaurants.
Quand je dis un classique, je parle pas forcément d'un plat entier. Mais par exemple, si on met nous, par exemple, à la carte en ce moment, on a du veau avec un millefeuille de pommes de terre et des blettes. Mmh. En fait, on va les travailler pas simplement. On va essayer de les travailler sans partir trop dans tous les sens, mais de maîtriser ce qu'on fait. Et en fait, c'est tout simple. Je suis allé manger à Pomme-Poire. Ouais. Tu connais, je pense.
Non.
À Zel Rideau, une étoile Michelin.
D'accord. Une étoile chez Pomme-Poire.
Ouais. Ils l'ont eu déjà il y a 2 ans, je crois, 2-3 ans.
D'accord.
Donc,
ils l'ont gardé, là.
Ouais. La cuisine est très, très bonne et maîtrisée. C'est ça que j'ai apprécié. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas partis dans tous les sens. Et en fait, ce que j'avais dans l'assiette, le principal, c'était très, très bien maîtrisé. C'est ça que j'apprécie, en fait. Parce que si je vais... Il y a des restaurants partout, hein, où tu as plein de couleurs dans l'assiette, tu as plein de trucs, plein de textures,
ça,
plein
ça
de machins.
Ça t'énerve un peu, ça?
Bah, si c'est maîtrisé, encore une fois, voilà, il ne faut pas partir dans tous les sens pour être joli. Il y a certains cuisiniers qui pensent à l'esthétique. Moi, c'est différemment. Nous, par exemple, au château d'Artigny, quand on réfléchit à un plat, on réfléchit au goût, à ce qu'un ingrédient va apporter à l'autre. Et après, avec ce qu'on a cuisiné, on va dresser. Et là, on va chercher le dressage.
En fait, beaucoup d'essais de mariage, d'association, tu dis on va chercher le goût de ce qu'un aliment apporte à l'autre. Vous faites beaucoup, beaucoup d'essais, de tentatives avant de mettre à la carte.
Alors, on n'a pas forcément le temps de faire des essais, quoi que ce soit, parce qu'on marche très bien toute l'année.
Ouais.
Bah, c'est un peu calme l'hiver, mais on marche bien quand même. Mais non, c'est ça, en fait, le truc, c'est qu'on réfléchit en équipe, tous ensemble, et on se dit, par exemple, là, on a une entrée, c'est de l'asperge. Donc, asperge verte, bon, c'est les débuts. On a mis ça avec du maquereau, un gravlax de maquereau, qui est brûlé après au chalumeau, légèrement grillé. Donc on va essayer de contrer le salé de ce maquereau avec du pamplemousse. Après, on a mis de l'anchois, un siphon anchois. Donc on va essayer de contrer ça avec autre chose, et ainsi de suite. On réfléchit tous ensemble, en fait.
Pour avoir une espèce d'équilibre, d'homogénéité du plat.
Voilà, exactement. Il faut qu'un ingrédient aille compléter l'autre.
Il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, et ça va nous permettre de revenir sur tes origines, mais la cuisine portugaise. Est-ce que cette cuisine, qu'est-ce qu'elle a de différent d'abord, cette cuisine portugaise ? Parce que j'imagine que jusqu'à tes 7 ans, voire même après, tu as forcément beaucoup mangé portugais.
Oui, même encore il y a 2-3 jours à la maison.
D'accord. Non, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de on dit toujours... la morue, etc., tout ça. C'est pas le cas, il n'y a pas que ça.
Non, il y a beaucoup, beaucoup de produits aussi, beaucoup de plats différents. Mais voilà, c'est comme en France, hein, les plats...
Qu'est-ce qu'elle est, cette cuisine portugaise,
par
rapport à la française ?
Elle est riche.
Riche en quoi ?
Riche en gras.
Au moins, c'est clair.
Riche en gras. Elle est bonne pour moi, elle est bonne.
Ouais.
C'est ce que j'ai connu.
Est-ce que cette cuisine portugaise qui t'a nourri jusqu'à au moins l'âge de 7 ans, voire même plus, qui continue encore parfois à rythmer les repas de famille, est-ce que ces influences portugaises, elles se ressentent dans ta cuisine ?
Alors oui.
Ah !
C'est vrai, quand on a connu quelque chose et qu'on aime ça, on a envie des fois de le faire. Mais j'avoue que je ne maîtrise pas beaucoup la cuisine portugaise.
Ah ouais ?
Je laisse ça aux experts, les grands-parents et les parents qui font ça très très bien.
Jamais t'as eu envie de te dire, allez, j'ai envie d'apprendre, tiens, mamie, montre-moi.
Bah, je sais comment ils font. Ouais. Je l'ai vu faire des dizaines et des centaines de fois, je sais comment ils font.
Tu serais capable de le refaire.
Oui, je pourrais, mais c'est tellement mieux quand c'est préparé par mamie ou par maman.
Et t'as pas cherché à retrouver toi-même ce goût, c'est un peu ce qu'on appelle la Madeleine de Proust, tu vois, mais ce goût, alors par exemple, je sais pas, d'un plat particulier qui a marqué ton enfance. Est-ce qu'il y a d'ailleurs un plat portugais qui aurait vraiment marqué ton enfance? Quelque chose, ce plat-là, c'est vraiment... Moi, par exemple, ça peut être la crème à la vanille de ma maman, tu vois, par exemple.
Okay.
C'est des choses... Toute bête, hein, la Madeleine de Proust. Qu'est-ce que toi, ça serait? Quelque chose que vraiment, si tes grands-parents, malheureusement, un jour n'étaient plus là, quel plat dont tu voudrais absolument retrouver le goût?
Ah, c'est très, très simple.
C'est vrai.
C'est, mon grand-père, il fait des grillades, mais c'est merveilleux. J'ai jamais mangé des viandes aussi bien grillées. Parce qu'il a la petite sauce qu'il met, qui est magique, que c'est lui qui fait.
Ouais.
Enfin, c'est ma grand-mère qui le fait. Je cuisine pas beaucoup à part les grillades.
D'accord.
Et voilà, ils font ça avec des tomates du jardin, des poivrons, des piments, tout du jardin. Ils font leur petite sauce qu'ils mettent dessus, c'est très très bon. Et puis ma grand-mère, elle fait un riz avec des haricots. Donc j'ai pas le nom de la variété d'haricots, parce que c'est un truc du Portugal, et
ouais.
Même en portugais, je l'ai plus. Mais c'est très très bon. Et ça, c'est à chaque fois que je vais au Portugal, je
t'en demande.
Mamie, j'arrive tel jour. Est-ce que tu peux m'en préparer, s'il te plaît? C'est vrai,
donc,
à
si
chaque
on,
fois, je fais ça.
Si on veut te séduire, un bon barbecue et du riz haricot, alors, c'est ça?
C'est ça.
Ah, ok. Et tiens, puisqu'on on parle portugais, quelle place a encore cette culture portugaise chez toi en ce moment et dans ta vie de tous les jours? J'imagine qu'on n'efface pas, une enfance au Portugal.
On n'efface pas, et puis je n'ai pas envie de l'effacer parce que j'y retourne dès que je peux. Toutes
ouais.
mes vacances, elles se passent là-bas.
D'accord.
Même là, j'avais prévu de partir peut-être en Crète.
Ah ouais?
Mais je pense que ma destination, elle est déjà toute prise.
Ça sera le Portugal.
Oui, parce qu'on profite aussi de la famille, tant qu'ils sont là.
Tu penses en quelle langue? Parce que j'imagine que tu es parfaitement bilingue.
Oui, mais je pense en français. Et quand je compte en portugais des fois.
Ah
ça
ouais
dépend, oui. Ça vient tout seul, mais la plupart du temps en français. Maintenant, parce que j'ai vécu plus de temps en France qu'en Portugal.
Tu le regrettes justement de pas encore plus pratiquer le portugais ou tu arrives encore à le pratiquer quand même beaucoup?
Je le pratique encore ce matin, j'étais au téléphone avec mes grands-parents.
D'accord.
Ils parlent pas français du tout.
D'accord. Retourner là-bas, vivre, est-ce que ça pourrait être un projet de vie pour toi? Travailler, cuisine peut-être là-bas, je sais pas.
Bah, la vie est beaucoup plus compliquée. La France a une chance aussi.
Tu t'en rends compte de cette chance-là?
Oui, les Français se plaignent beaucoup. Mais la France, c'est un pays de chance, parce que...
Alors, tu dis les Français, tu t'inclus pas dedans, t'as la nationalité portugaise?
J'ai encore la nationalité portugaise, mais après, bah, ça fait un bout de temps que je suis en France. Mais c'est vrai que bah, tout le monde se plaint beaucoup.
Ouais.
Après, se dire c'est pire ailleurs, c'est pas une excuse non plus. Mais on a beaucoup de chance par rapport à d'autres pays.
Ouais.
Mais après, il y a des pays plus chanceux que nous. Après, c'est l'évolution, c'est comme ça.
Au Portugal, la vie est vraiment plus difficile?
Oui, 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 parce que le SMIC, il est à 700 euros et des brouettes, et les produits sont aussi chers qu'ici.
Ah ouais?
Donc oui, surtout depuis après Covid.
Ah ouais.
Donc les retraites même...
Ça
suffit pas. Donc c'est très compliqué, c'est pour ça que beaucoup de Portugais ont quitté le Portugal.
Il y a une grande précarité là-bas. Tu t'en rends compte quand tu redescends au Portugal, quand tu vas voir la famille?
Oui, parce que je vois en fait qu'il y a beaucoup de personnes âgées.
Oui.
Parce que le
Portugal, c'est un pays vieillissant.
Oui, parce que les enfants sont partis.
Ah ouais.
Du village où habitent mes grands-parents, mais dans toutes les maisons, tu toques à chaque porte, tu demandes est-ce que tu as quelqu'un de ta famille qui est parti à l'étranger? Tout le monde qui te dit oui. L'Australie, la France, l'Angleterre, la Suisse, le Canada, les États-Unis, partout. Parce que c'est un pays qui ne paye pas, qui est un pauvre. Pauvre. Les gens ne meurent pas de faim non plus. Mais c'est un pays qui a besoin d'avancer. Puis la vie est très très chère. Juste, tout simplement, les forfaits téléphoniques sont hors de prix. C'est hors de prix, alors qu'ici, par exemple, le forfait que j'ai, moi, qui me coûte 50 euros, là-bas, il me coûterait 100 euros.
Ça te fait un peu mal? Ça te touche quand tu y vas?
Bah oui, forcément, parce que quand je vois, par exemple, mes grands-parents, quand ils font les courses, ils choisissent ce qu'ils mettent dans le caddie. Et moi, ça me fait un peu mal au cœur, parce qu'ils ont travaillé toute leur vie. Et se dire qu'après une vie entière de travail, on continue encore à choisir ce qu'on met dans le caddie. Mais enfin, c'est comme ça. Même en France, les gens, ils regardent ce qu'ils mettent dans le caddie.
C'est quoi l'avenir pour toi? Comment tu vois les prochaines années? Toujours en cuisine? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui te motive?
J'ai envie de faire ce qui me donne envie. Donc aujourd'hui, c'est la cuisine.
Ouais.
Si demain, j'ai envie de faire autre chose, je ne vais pas m'en empêcher.
Ça pourrait être. Il y a d'autres choses qui t'intéressent?
Oui, je pourrais.
J'imagine que quand on est cuisinier, on a plein d'autres passions à côté, à commencer par le football.
Bah, j'aime bien le football. Bah, après, comme tout le monde, hein, si j'avais pu faire une carrière dans le football, je l'aurais fait.
Oui, évidemment. Oui.
Mais je n'étais pas très doué. J'aurais aimé faire médecine.
C'est vrai?
Mais l'école, ce n'est pas mon truc.
Ouais, c'est pas les bancs de la fac, tout ça, non?
Bah, c'est pas le truc que je suis pas doué à l'école, mais c'est surtout que j'aime pas ça.
Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter de mieux pour les prochaines années, si on te souhaitait quelque chose, Francisco?
Je sais pas. Franchement, je prendrais ce que j'arriverais à prendre. Et si ça tombe du ciel comme l'euro million, je veux bien.
Ouais.
Mais non, après, je pense que c'est juste une question de travail.
Il y a une séquence qui est importante dans le podcast. Cette séquence, elle clôt l'épisode. C'est le mot de la fin. C'est à toi.
Un mot pour moi d'aujourd'hui, mets-toi un coup de pied au cul. Un mot pour moi de demain, si tu t'es mis un coup de pied au cul, t'as bien fait de t'écouter. Un mot pour moi d'avant, mets-toi un coup de pied au cul plus tôt. Après, dire des choses à d'autres gens. Des gens qui sont décédés, par exemple ma grand-mère, qui est décédée il y a déjà presque 3 ans. J'aurais aimé qu'elle soit là pour voir ce que j'ai pu faire. Et puis, bah, merci aux autres, mes parents, mes amis, tout ça qui me soutiennent. Et un mot pour peut-être mes grands-parents qui ne sont plus là. Moi, aujourd'hui, mon plus grand souhait, ce serait que si j'ai des enfants, on en a parlé au début, qu'ils soient éduqués comme j'ai été. Donc par mes grands-parents aussi. C'est mon plus grand rêve, entre guillemets, c'est de pouvoir présenter mes enfants à mes grands-parents. Ce qui n'arrivera sûrement pas, malheureusement, mais je suis pas le seul. Je suis très famille avec mes grands-parents, donc voilà. À moi-même, j'ai envie de me dire, donne-toi les moyens de réussir. Parce que c'est bien beau de... je vais m'engueuler tout seul, mais de regarder les trucs sur les réseaux, machin. Lui, il a ça, c'est très bien pour eux. Et heureux pour tout le monde. Mais donne-toi, toi, les moyens de réussir. Parce que si tu te bouges pas le cul, c'est personne va le faire pour toi. Donc arrête de te plaindre et puis mets-toi un bon gros coup de pied au cul comme il faut.
Et Dieu dans tout ça?
Dieu dans tout ça, j'ai été élevé dans une famille très chrétienne. Donc mon grand-père a travaillé à l'église pendant de nombreuses années jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. Mes grands-parents allaient à la messe tous les week-ends. Mes parents, un peu moins, ils sont croyants, mais un peu moins. Mon rapport à Dieu, il se fait aussi beaucoup par rapport à mon éducation. Après,
c'est-à-dire
que j'ai été éduqué là-dedans. Donc je sais que ma famille sont tous croyants. Ça serait la suite logique que je le sois aussi. Après, c'est une question que j'arrive des fois à me poser.
Ouais. Tes parents t'ont rien obligé?
Non, ils m'ont laissé la liberté de penser et de me construire tout seul aussi par rapport à ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans la religion, de familles, peu importe la religion, qui veulent absolument que leur enfant soit chrétien, juif, musulman, tout ce que tu veux. Moi, j'ai eu cette liberté de... Ils m'ont transmis ce qu'eux, ils pensaient, mais moi, je pense ce que je veux. Et moi, je sais pas trop, en fait. Donc, j'ai envie de dire que je crois à ce que je vois.
T'es cartésien?
Et oui, et puis surtout que... En fait, ce qui me gêne un peu dans ce rapport à Dieu, c'est qu'il n'y a pas de preuves scientifiques. Et moi, c'est ce truc qu'à chaque fois qu'il me faut, comme par exemple les aliens, hein. Si t'as pas la preuve scientifique, moi, ça me manque un peu, en fait.
T'as besoin de voir, t'as besoin d'avoir des preuves.
Ouais, mais après, j'aime bien ce côté aussi curiosité, je vais pas dire imagination, sinon voilà, mais ce truc du, en fait, c'est depuis des centaines de, peut-être pas des centaines de milliers d'années, mais des milliers d'années que existe la religion.
Au moins 2000.
Oui, voilà, au moins 2000. Donc, il y a des gens qui disent que c'est, à l'époque, ils trouvaient des excuses pour les phénomènes bizarres, c'était Dieu, machin. Et après, il y a ce truc qui se maintient, qui se transmet depuis des millénaires et on sait pas trop. Donc, je suis un peu perdu sur la question, on va dire. C'est, si tu il y a des moments où j'y crois et des moments où j'y crois un peu moins. Des mots, par exemple, on a parlé tout à l'heure du décès de ma grand-mère. Elle était très croyante, donc à ce moment-là, je l'ai été aussi. C'est pour elle. J'ai prié pour elle et tout. Mais
ça voilà. Ça n'a pas suffi.
Un peu déçu. C'est pas, c'est comme ça.
Merci Francisco.
Merci à toi.
Voilà, c'est tout pour ce 64e épisode de Ces Garçons-là. J'espère que cette rencontre un peu différente avec Francisco, tout en gourmandise notamment, a pu vous séduire. Et puis, c'est aussi l'histoire de Francisco, l'histoire de nombreux Portugais et plus généralement d'étrangers qui sont déracinés et qui doivent arriver et s'intégrer chez nous en France. Je vous souhaite une très très belle semaine. N'oubliez pas, on se retrouve également sur le compte Instagram de Ces Garçons-là. Et puis, vous avez également la possibilité de nous suivre sur YouTube. Belle semaine à vous, à très vite dans Ces Garçons-là.